Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des...
Bonjour maître, j'ai oublié votre nom. Je voulais vous poser une question. Vous dites tout à l'heure, vous avez fait une remarque en fait intéressante, où vous faisiez la différence, enfin la comparaison avec une application de Amal Bentounsi, qui son frère est mort en France et qui a créé une application Urgence notre police assassine. En France, ça a été fait. Vous dites que vous avez essayé de le faire en Belgique et c'était compliqué. Vous parlez de financiers, enfin de Mais pourquoi en France, Amal Bentounsi, qui est une personne lambda, parce que j'ai pu la rencontrer, qui est une personne tout à fait comme vous, comme moi, et qui, elle, a pu mettre ça en place, et qui s'est pas retrouvée, je veux dire, avec tous ces problèmes de vie privée que vous avez signalés tout à l'heure, etc. À vous entendre, c'était un peu démotivant de lancer ça ici en Belgique, alors qu'en France, juste à côté, c'est fait. Voilà, je m'interrogeais par rapport à ça.
Ben, je vous invite vraiment de le faire. Moi, je ne dis pas du tout que ce n'est pas possible. Je dis que c'est compliqué et que je pense que déjà le fait que la ligne d'alarme avait été lancée par la Ligue des droits humains, qui est entre-temps à nouveau été arrêtée, mais parce que voilà, les jeunes ne téléphonent pas à une ligne d'alarme. Déjà, ça avait donné. Les policiers ont fait un communiqué de presse en disant que c'était scandaleux, que c'était dangereux pour eux, etc., etc. Et voilà, moi je dis pas du tout que c'est pas possible. Je dis juste que c'est compliqué quand même, qu'il faut avoir les moyens. Et vraiment, je vous invite à le faire parce que c'est pas du tout que je dis que c'est pas possible. Hein. Voilà, moi j'ai pas le temps pour le faire ni les moyens. Désolée, je travaille déjà beaucoup, mais vraiment, ben oui, tant mieux que la personne en France elle est forte.
Je te relaye. Si ça s'est pas fait ici en Belgique, c'est que il y a des difficultés effectivement. Et si je dis qu'il y a eu des difficultés en Belgique, c'est aussi pour pas minimiser le travail qu'a fait Amal Bentounsi pour que cette application puisse exister. Il n'a pas suffi d'un claquement de doigts. Effectivement, il faut trouver l'énergie financière, le cadre juridique, etc., etc. Tout ça juste pour dire que Amal Bentounsi est une sœur aussi pour nous. Et que, en fait, l'application Urgence Violence Policière est tout à fait accessible ici en Belgique. Vous pouvez la. Et donc, il y a deux modes. Soit vous décidez que toutes vos images soient envoyées sur le serveur. Et donc, là, je vous garantis, en fait, que pour n'importe quel Belge qui utiliserait l'application Urgence Violence Policière, ces images sont envoyées en France. Je vous dis, Amal Bentounsi est une sœur, et donc les images donc, qui proviennent de Belgique ou des États-Unis ou du Maroc ou de n'importe quel pays du monde, en fait, seront entre de bonnes mains et disponibles pour nous, en tout cas, et les avocats qui en auraient besoin. Donc, le temps qu'une application belge puisse exister, pourquoi faire doublon? J'invite tout le monde donc à utiliser l'application française qui permet, comme ça a été dit dans les interventions, que s'il y a saisie du téléphone ou que si le flic prend le téléphone et le casse, ben les images sont, comme je l'ai dit, sur un serveur protégé et accessible après à la personne.
Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques, réflexions?
Merci à tout le monde, d'ailleurs, à tous les quatre. C'est vraiment évidemment très intéressant. Je voulais poser une question à Yo. Je suis tout à fait d'accord avec elle et je suis un peu naïf. Je sais bien que j'ai un côté un petit peu naïf, mais que les juges et les policiers, c'est toujours dans le même la structure d'État, évidemment. Mais je suppose quand même qu'il y a certains juges qui sont un peu plus ouverts que d'autres. Et par exemple, c'est juste là, quand ils voient, je prends l'exemple du tunnel, là, quand ils voient qu'il y a les films jusqu'à 5 minutes avant et puis ça recommence 10 minutes après, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme une présomption d'innocence qui est en
En fait, je vais répondre en deux temps parce que ce que vous avez dit, c'est intéressant, mais je partage votre avis qu'il y a des juges qui sont bien. Hein. Je ne veux absolument pas dire que tous les juges sont des. Je veux juste dire que les systèmes judiciaires en tant que tels, c'est quand même un système. Il y a des limites. Même si vraiment, hein, par exemple, le juge Hénard, même si cette personne en audience, il n'était pas très chouette à vivre, mais il osait quand même prendre des décisions, des fois qui étaient bonnes. Hein, donc, où il osait aller à l'encontre de la police, par exemple. C'est lui qui a condamné les policiers pour traitement inhumain et dégradant sur le migrant, que ça aussi, ça avait été filmé. Donc, grâce au film, on a pu les condamner. Donc, oui, certes, il y a des juges qui sont vraiment bien. Je ne veux absolument pas dire ça. Ce que je vois seulement, c'est qu'on voit quand même que la grosse majorité des décisions sont des décisions où il y a un non-lieu, où l'affaire n'arrive même pas au juge, en fait. Hein, ça arrive à la chambre de conseil ou sinon au parquet, parce que maintenant, nous, quand on porte plainte, par exemple, avec les jeunes, on le fait presque plus chez les juges d'instruction, parce qu'on a un risque de devoir payer une indemnité de procédure, comme la famille de la mine a dû payer. Et donc, du coup, on fait juste une procédure au parquet, et le parquet peut le casser sans suite, sans aucun problème. Donc voilà, je partage votre avis qu'il y a des juges qui sont OK. Mais donc du coup, nous on pense quand même que c'est très important que dans ce genre de dossier, il y a quand même aussi une mobilisation. Parce que cette mobilisation et le fait que ça soit gardé en public, que l'affaire est continuellement sous l'attention de la presse, etc., etc., ça peut quand même aussi avoir une influence. Et je pense que c'est important, du coup, le travail des comités, des familles font pour continuer à demander justice pour le fait que des victimes soient, allez, pour que leurs membres de famille soient morts. Ça, c'est une chose. Et puis, ce que vous avez dit sur la présomption d'innocence, il y a bien sûr présomption d'innocence hein, pour aussi les policiers, mais il faut savoir que pour des jeunes qui se font tabasser...
Non, je parlais pour les accusés, enfin pour ceux qui portent plainte.
Ben oui, ouais, ben pour les. Pour
ça devrait être en leur faveur, quoi. Si une caméra n'a pas marché, c'est quand même suspect, quoi.
Oui, mais non. Voilà. Non, donc voilà, c'est parce que, voilà, c'est pas parce que quelqu'un. Parce qu'une victime serait pas coupable de quelque chose que d'office, alors le policier est coupable. Mais par contre, ce qui est quand même aussi important à savoir, mais juste ça n'a rien à voir avec les images, mais en général par rapport aux violences policières, c'est qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui justement a estimé que quand quelqu'un rentre dans un commissariat ou dans un fourgon de police et qui est donc dans les mains de la police et qu'il est sain quand il rentre mais qu'il est blessé quand il ressort de là, qu'en fait c'est à la police de prouver que la force qu'ils ont utilisée n'est pas une force excessive et que donc ils ont utilisé la force nécessaire. Et ça, c'est une jurisprudence constante depuis déjà plusieurs années. Et en fait, elle n'est pas appliquée en Belgique, alors que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit, qu'il faut avoir cette présomption de culpabilité, en fait, hein, donc qu'il faut renverser. Mais apparemment, les juges ici se basent sur la présomption d'innocence. Et donc, du coup, voilà, c'est mis dans notre code pénal, hein, la présomption d'innocence. Et tant mieux que c'est mis dans le code pénal, parce que pour beaucoup de gens, c'est vraiment important quand même que ça y est, parce que sinon, il y aura encore plus de monde en tôle. Mais pour la police, normalement, ça devait être renversé. Mais la jurisprudence belge ne suit pas la jurisprudence européenne par rapport à ça.
Grand merci. Et je suis d'accord avec vous. Hein.
J'avais une question par rapport à la question de la liberté de la presse. Vous avez précisé que vous étiez journaliste indépendant. Donc je voulais poser la question, qu'est-ce que cette indépendance par rapport à d'autres médias sur la question notamment des images et quelles sont les résistances que vous rencontrez aussi par rapport à des collègues, qu'ils soient aussi journalistes indépendants ou non. Donc si vous puissiez... Ouais, et du coup, pour prolonger cette question vis-à-vis de Nordine, quel est, dans le collectif Justice pour Lamine, quelles sont les relations avec les journalistes, la question des alliances aussi dans la société raciste telle que tu l'as décrit ce soir, voilà, donc la question des alliances, que ce soit vis-à-vis du corps journalistique ou par-delà.
Ça marche ? Pour dire un mot brièvement, moi, je suis pas dans le métier fort depuis très longtemps, mais je pense que il y a une dimension. Après, je suis pas expert du tout du sujet, mais j'ai l'impression que ce sujet des violences policières, pour beaucoup de journalistes, c'est très très loin d'eux en fait dans leur vie quotidienne. En fait, ils ont jamais été confrontés à ça, et donc du coup, une difficulté d'appréhender ce sujet, j'imagine. Après, c'est voilà, je suis vraiment pas un expert là-dedans, et je pense que depuis une dizaine d'années là, le fait que maintenant il y a des vidéos, en fait, ça participe à on peut plus le mettre sous le tapis en quelque sorte. Et enfin, moi je pense effectivement, et dans les rédactions, c'est vrai que j'ai constaté en tout cas voilà, en France, là où j'ai pu travailler, une difficulté pour certains collègues de se confronter à ça et de regarder en face, en fait, ce que notre police fait, en fait. Et alors il y a quand même des médias qui font du travail en France, je cite Mediapart, Libération, même Le Monde parfois le font, mais ouais, moi je pense que c'est compliqué. Alors, journaliste indépendant, oui, c'est aussi pour pouvoir avoir aussi une certaine choix dans le choix des sujets qu'on veut traiter, effectivement. Ouais. Être en poste dans une rédaction, on ne peut pas faire ce qu'on veut tout le temps. Et même, c'est plus souvent l'inverse. voilà. Donc, être indépendant, c'est beaucoup plus précaire, mais ça permet de pouvoir se consacrer à des sujets. Si tu veux compléter, je ne sais pas. Non,
j'ai pas à compléter, si ce n'est que quand tu es indépendant, la difficulté, ça va être d'intéresser aussi, après, derrière, réussir à trouver, entre guillemets, des médias qui te font confiance et qui sont prêts à aller sur ces sujets-là aussi, quoi. Et du coup, ça se fait, mais bon, peut-être pas assez, j'ai pas la réponse à cette question. Mmh. Mais c'est notre difficulté, c'est de convaincre aussi, quoi, de dire, là, on pense qu'il faut le faire, et du coup, qu'il y ait des médias qui soient prêts à nous suivre aussi.
Et j'ai pas cité, c'est vrai, c'est hyper important, tout plein de médias indépendants, je sais pas, en France, je pense à La Friche, des Armonlais, enfin voilà, qui en fait ont fait un vrai travail de, là j'ai cité que des gros médias, mais en fait ces gens-là ont fait un travail pendant des années à prêcher dans le désert pour essayer d'intéresser les gens, et ils ont fait un travail formidable, ils le font toujours d'ailleurs.
Et d'ailleurs, nous, sur les boulots qu'on a pu faire pour des médias un peu plus gros, c'est souvent aussi eux qui nous filent des coups de main, je pense, à des Armonlais. Ouais, carrément.
Nous, sur la question d'abord une question, est-ce qu'il y en a qui avaient vu les images qui ont été projetées là? Majoritairement, c'est non. Est-ce qu'il y en a qui avaient vu les images de George Floyd? En gros, la majorité, c'est oui. Tout le monde a vu les images de George Floyd. Personne n'a vu celle de Lamine Bangoura. Pourtant, Lamine Bangoura, ça, chronologiquement, c'est bien avant George Floyd. Ça répond déjà à ta question par rapport aux médias. Aucun média mainstream n'a diffusé ces images ou a même pu évoquer l'affaire de Lamine sérieusement. Le soir, on a parlé en titrant dans un article « Plus Lukaku que Messi » pour parler du corps de Lamine Bangoura. Et la question, elle était importante sur les alliances avec les journalistes. Elles sont essentielles, en fait, pour nous en tant que militants, parce que ces journalistes sont ceux qui peuvent nous fournir des éléments de réponse ou d'enquête qu'on n'aurait pas. Dans le cadre de Lamine, sans Samira Atala et Douglas de Koning, par exemple, je ne sais pas si on aurait pu faire autant de travail, mais aussi Olivier Moukouna et Faisal Chefou, qui est ici dans la salle, qui ont participé en tant que peut-être ça les met mal à l'aise qu'un militant dit que leur travail nous sert. Je sais que ils sont un peu susceptibles, les journalistes, ils veulent être indépendants, mais leur indépendance nous sert absolument. Celle de Michel Bouffiou dans le cadre de l'affaire Maouda. Alors donc oui, le travail des journalistes est vraiment important, et j'utilise journaliste surtout dans le bon sens du terme, donc pas les journalistes du mass-média. Et donc, ceux qui s'occupent des violences policières, en général, font plutôt un travail de contre-enquête, et à ce niveau-là, il est très important pour nous.
Pour apporter un tout petit autre élément de témoignage qui, moi, m'a quand même marqué, ça fait, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je travaille d'abord dans le design et ce genre de choses, je travaille dans les médias depuis 5 ans, et j'ai commencé d'abord à la rédaction du Monde, et j'ai quand même pris une grande claque de voir que majoritairement, les journalistes sont blancs, et en termes d'origine sociale, il y a clairement, est-ce que les médias sont heureux, sont à l'image de la société? Je ne pense pas.
J'ai
Bonjour, j'ai une question pour Maître Calavard. Vous avez évoqué que il est tout le temps permis de prendre des images, mais que des fois on pourrait risquer d'être poursuivi si on les publie. Et donc je me demandais si vous avez des exemples où ça s'est déjà passé, qu'on a publié des images de police et qu'on poursuit les gens qui les publient. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre quand on fait ça?
Donc, non, mais je pense qu'en tout cas, il y a d'office des plaintes de diffamation, ça c'est sûr. Et il y a même des poursuites. En tout cas, c'est le cas pour...
Veuve de Chauvanet qui avait été poursuivie.
Oui, mais je ne sais pas si c'est déjà devant le tribunal. Je ne pense pas qu'elle a effectivement... Je pense qu'il y a une plainte qui est en cours, mais je ne pense pas qu'elle a déjà été poursuivie. Mais la veuve de Chauvanec, effectivement, parce qu'elle a fait, elle a lancé les images. Je sais aussi qu'Alexis de Soivre, notre confrère, qui est l'avocat de la famille de Lamine, est poursuivi. Allez, en tout cas, il y a une enquête en cours contre lui. Il a été inculpé à Bruges pour avoir donné le dossier. Allez, on dit qu'il a donné le dossier à un journaliste et que donc il aurait violé le secret professionnel. Et j'imagine qu'il y a des procédures, oui, dans le pays, de gens qui ont déjà été condamnés par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut flouter le visage, quoi. Je suis pas très douée dans tout ça, mais je pense que c'est pas très compliqué de flouter un visage ou de mettre un petit bloc. Ben non, mais en fait, quand moi je parlais de Insta et de Snapchat, c'est que je pense que, en tout cas, mes clients me disent que tu peux filmer ça sans même immédiatement le mettre sur le réseau, mais que tu puisses juste le filmer en privé ou dans ton groupe privé, que donc du coup c'est pas en public. Mais donc voilà, oui, faut faire attention quand même. Mais je sais pas. En tout cas, nous on n'a pas encore de jeunes ou de gens qui sont venus chez nous pour nous demander de les défendre dans le cadre de ça. Mais bien sûr. On n'est qu'un petit cabinet d'avocats, donc on ne connaît pas tous les dossiers.
Je voudrais aussi vous répondre. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que sans la divulgation des images de Jonathan Jacob ou de Joseph Chauvanec, personne n'aurait rien su. Et donc, personnellement, mais aussi notre collectif, on encourage les gens à diffuser les images. Et Faisal me corrigera, mais je pense qu'il est pointu sur ça. Le fait de diffuser les images et de flouter, c'est vraiment un excès de zèle que les militants veulent chercher, en fait. Il est permis de filmer, c'est une certitude, non seulement de filmer, mais là, quand on parle de la police, il est permis de filmer et de diffuser les images avec leur visage. D'autant plus que s'ils sont en train de tabasser ou de tuer quelqu'un. Donc on invite les gens à diffuser les images, et quitte à prendre, quitte à faire le choix. Est-ce que c'est avoir la peur de se faire poursuivi, c'est à pas encore dire condamné, et dénoncer quelque chose qu'on trouve grave, peut-être même la mort d'un individu, ou le bien-être familial et la vie privée d'un flic qui a en fait... fait ce qu'il ne devait pas dans son propre métier.
J'aurais une petite question pour les journalistes indépendants. Je voulais juste, tout d'abord, je suis tombé sur votre vidéo dans Le Monde récemment, et je voulais vraiment saluer la qualité de votre travail. Elle est juste excellente, bravo à vous. Et c'est très important, très utile, et j'avais cette question financière. Parce que ça doit coûter, moi qui est un petit peu dans le métier, ça doit coûter très cher. Vous avez été publié, ma première réaction, c'est j'étais étonné de voir cette vidéo dans Le Monde, alors que généralement c'est Mediapart par exemple qui se lance un petit peu dans ce genre d'aventure. C'est bien que c'était étonné de voir que Le Monde puisse gérer ce sujet. Est-ce qu'ils le font par concurrence vis-à-vis de Mediapart, ou c'est vraiment parce que c'est une volonté de s'intéresser au dossier? Surtout que maintenant, la violence policière, on a vu Mélenchon, etc., parle de la police tue. C'est vraiment le débat à l'heure actuelle. Donc, comment ça se passe financièrement? Et est-ce que vous trouvez d'autres chaînes, parce qu'ici en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas, mais d'autres chaînes de télévision ou des médias qui sont prêts à prendre des sujets comme les vôtres, d'autant qu'ils sont d'intérêt général et excellents. Merci.
Juste pour être sûr, j'ai pas bien entendu, vous parlez de quelle vidéo, de celle sur le Stade de France ou d'une autre?
Sur la dernière, la vidéo avec les jeunes de la cité.
Celle qu'on a montrée, voilà, l'affaire de Villemomble, c'est ça, très bien. C'est pas spécialement. Alors après, je suis pas dans les hautes sphères du monde. Enfin, surtout plus maintenant que je suis indépendant. En tout cas, ces projets-là n'ont pas vu le jour de la part d'une volonté de la rédaction de se saisir de ce sujet-là. C'est venu de notre équipe à nous, c'est-à-dire le service vidéo. Pour la toute première, celle pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est venu de moi et ma collègue principalement qui nous sommes bagarrés pour passer ce sujet. Et en termes de la réalisation qu'on a choisie, utiliser la 3D et tout, clairement, s'il n'y avait pas eu un engagement personnel très fort, ça n'aurait pas vu le jour. J'ai fait toutes les 3D chez moi sur mon temps libre, enfin, voilà, si vous voulez. Voilà. Et sur l'affaire de Villemomble, qu'on a fait un an et demi après, je crois, où là, voyant que les premiers sujets avaient été bien reçus, avaient intéressé, l'équipe du Monde a choisi, je pense, au niveau rédaction en chef, de continuer ce travail-là en quelque sorte, mais néanmoins, nous, faire ce sujet-là, ça nous a pris. On a bossé tous les deux avec une troisième journaliste, Amanda Jacquel. On a dû bosser 6 mois dessus, à temps complet. Et Lucas Roxo qui nous a aussi aidés, mais dans une moindre mesure. Mais, comment dire, on a été payé, je pense, pour un mois et demi de travail environ. Et donc, comment dire, c'est pareil, si on n'avait pas décidé, nous, d'investir, c'est pas pour nous, nous vanter, ou je sais pas, mais de mettre de notre temps libre en gros pour reprendre tout le dossier et le faire, ça aurait été compliqué de le faire sous cette forme-là en tout cas. Après, on a décidé de le faire et de quand même, malgré le fait qu'il n'y a pas le budget qu'il faudrait, et nous on s'est dit, ok, ce sujet-là nous tient à cœur, on se dit qu'on a aussi envie de parler, on se dit. Publier ça dans le monde et parler à 600 000 personnes qui verront ce truc-là, c'est des gens pas forcément convaincus par le sujet. On a eu envie de le faire, on a décidé de le faire. Et donc, mais il y a quelques. Ouais, Mediapart fait du travail quand même, même si Mediapart, ça reste un petit média. J'ai pas envie d'oublier de gens en France, mais non, il y a pas non plus tant de cases que ça. Enfin, le journaliste d'enquête en audiovisuel, il y a de moins en moins de cases. Canal+ a fermé ses cases, à ma connaissance. Il reste sur le service public, il reste complément d'enquête, cache investigation, je crois, qui font d'excellentes enquêtes. Je pense qu'ils ont probablement dû traiter ce sujet-là aussi, j'en suis pas sûr. Il n'y a pas tant de cases que ça. Nous, on a décidé, que ce soit Emile ou moi, même si Le Monde met en face une équipe d'analyse vidéo, une certaine précarité, même si ça va, on n'est pas non plus dans une précarité extrême, loin de là, on préfère rester indépendant. Ça vous donne un peu un élément de réponse aussi sur la latitude qu'on a une fois qu'on est dans la région. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on est en rédaction. Parfois, on va nous permettre de faire des choses, mais pas non plus. Donc, les médias sont, c'est un secteur en tension. Il y a plein de problèmes, mais ça, ouais, clairement.
Juste vu l'heure, je propose qu'on prenne une dernière question et qu'après on discute de manière informelle au bar, mais pour pas dépasser trop. Battez-vous.
Ouais, moi, je voulais d'abord vous remercier tout le monde. C'était pas vraiment une question, c'était plutôt une espèce de remarque. Dans ton intervention, Nordine, tu as parlé de l'organisation. Et j'ai l'impression, enfin moi, si le débat pouvait se poursuivre entre le regard que chacun de vous porte sur les images et les lectures qu'on peut en faire et la lutte politique qu'il y a notamment pour faire valoir un autre rapport à la façon dont on les interprète, aussi bien juridiquement que médiatiquement, que d'un point de vue existentiel, quoi. C'est en fait aussi bien au niveau de l'avocate que dans votre métier de journaliste, que toi comme militant, je pense au collectif des Madrés aussi, quelle forme d'organisation ça peut produire. Et voilà, moi j'aurais bien en fait aimé juste que tu puisses répéter si tu retrouves le passage sur l'organisation. Tu dis, je crois, de ne pas le faire pour les personnes qui ont besoin d'aide, mais de se retrouver, de se soutenir. Je ne me souviens plus de mémoire, j'aurais voulu la réentendre avant de sortir d'ici, si c'est possible.
Avant de retrouver le passage, effectivement, nous, on ne travaille qu'à une chose, je veux dire, c'est d'avoir des personnes comme les camarades ici à ma gauche qui travaille sur les images et puisse travailler avec nous, avec, entre guillemets, notre expertise, avec notre regard de noir et d'arabe sur, sur ces images. Et aussi, évidemment, avec les avocats, faire en sorte que, malgré qu'on sait que la réponse de beaucoup, hein, c'est que de venir au tribunal et de lancer à la gueule du juge que X, Y ou Z est tué parce qu'il est noir, alors que ce n'est pas immobile, en fait, le racisme. Nous, on aimerait bien que le racisme devienne immobile et pas une circonstance aggravante, que quand tu es un noir et un arabe, c'est la même chose que quand tu es une femme. Donc, le crime de féminicide, donc les crimes pour les noirs et les arabes aussi, d'un point de vue politique, qu'ils soient reconnus comme tels. Aussi, signaler que le combat pour la justice, si on peut l'appeler ainsi, pour la famille de Lamine Ouangoura n'est pas fini. Le combat se poursuit. Il va aller jusqu'à la Cour de justice européenne. Et pour ça, la famille elle a besoin d'un maximum de relais. Donc le combat, il n'est pas fini. Des journalistes, des contre-enquêtes, de l'argent, du soutien juridique, médiatique, politique est encore nécessaire. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à diffuser à cette histoire de Lamine Bangoura, en faire, comme ça a été le cas de George Floyd, en faire un cas emblématique ici en Belgique, avec cette histoire de la colonisation. Il nous semble que Lamine est quand même assez représentatif. Et donc, j'encourage tout le monde à soutenir. Le passage que tu disais, c'est quoi ?
Ça peut être partagé par la suite, mais c'était sur, c'est dans ta conclusion sur l'organisation.
Face à la répression, à la police, à la justice, il devient nécessaire de s'organiser. S'organiser, ce n'est pas aider les autres qui en auraient besoin. C'est se retrouver à partir de ce qu'on vit, se tenir concrètement et faire face ensemble. Un travail à la fois juridique et politique de transformation du droit pénal à partir de l'ensemble des cas de jeunes noirs et arabes assassinés par la police pourrait être produit pour inscrire le mobile raciste comme cause de ces mises à mort. Sans en prendre la mesure, l'on ne peut que reproduire la violence sur les victimes en allant chercher chez elles et dans leur vie des circonstances atténuantes pour le meurtre policier. Et c'est ce que Yoak disait à propos de « ça revient systématiquement, mais pourquoi il ne s'est pas arrêté ? Mais pourquoi il a volé un sac ?» Un élément de réponse qu'on donne, nous, c'est si on connaît l'histoire de Adil et de Mehdi, on comprend pourquoi Ibrahima s'est enfui en courant. Si on comprend, si on connaît Adil et Mehdi et Lamine, on comprend pourquoi Sabrina et Wassim n'ont pas osé s'arrêter. Et aussi, poser cette question, les gens qui viennent avec cette question, il faut les stopper net. À moins que ce soit clair aussi, on rétablit la peine de mort. Que ce soit clair pour tout le monde, la peine de mort n'existe plus dans ce pays, sauf pour les Noirs et les Arabes qui volent des sacs, qui s'enfuient face à la police. Sinon, qui va justifier en fait que... on a tiré sur une personne parce qu'elle ne portait pas des bottes de sécurité. C'est quoi ces questions stupides ? Voilà.
Je propose qu'on reste sur ça comme mot de la fin. je vous remercie à tous et aux différents intervenants. Merci beaucoup.